Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe, un magazine sur nos deux antennes internationales. Et nous sommes cette semaine présents à Bruxelles, au cœur du Conseil européen, où les 27 ont planché sur la délicate question du Brexit et puis aussi des relations avec la Chine, des sujets qui intéressent particulièrement notre invité du jour. C'est le Premier ministre portugais, António Costa. Merci d'être avec nous, Monsieur le Premier ministre.
Alors, vous avez d'abord été le maire de Lisbonne, un maire extrêmement populaire, et c'est comme ça que vous avez réalisé cette fabuleuse carrière politique. Vous êtes l'un des rares dirigeants social-démocrates qui est populaire dans son pays et qui a obtenu des bons résultats économiques tout en continuant à suivre les règles, les fameuses règles imposées par la Troïka à Bruxelles. Vous êtes donc un profil atypique dans cette Union européenne. Et puis aussi, vous faites partie des pays dont on parle beaucoup en ce moment, de ces pays qui, des pays européens qui ont une vision plus positive de la présence chinoise dans leur économie.
Alors justement, on va commencer par le grand thème de ce Conseil qui a été le Brexit, qui vous a occupé une bonne partie de la nuit, Monsieur le Premier ministre, avec la mise au point d'une nouvelle stratégie, deux dates désormais, hein, 22 mai, donc si la transition est, si exactement l'accord donc de transition et l'accord de retrait est voté au Parlement britannique, sinon ça va être un hard Brexit, donc un no deal, une sortie sans accord le 12 avril, ou encore un rebondissement si les Britanniques trouvent une autre solution. Qu'est-ce que vous voyez, quel est le but recherché finalement, parce que vous avez trouvé ?
Eh bien bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Bon, sur le sujet du Brexit, il faudrait à la fois assurer tout d'abord que n'avait pas la semaine prochaine un Brexit désordonné, serait une catastrophe pour nos citoyens et pour nos entreprises et pour l'économie européenne, et aussi qu'on avait pas un délai tellement indéfini qu'on pourrait poser en cause le bon fonctionnement des institutions démocratiques après le nouveau cycle électoral, après les élections du Parlement européen.
Alors on voit bien que ces élections européennes, elles sont au cœur de cette négociation sur le Royaume-Uni.
Oui.
Dites-nous un peu, vous deviez aborder cette question au cours, dans l'après-midi, quelques heures. Finalement, vous avez travaillé très tard. Hein, on a eu l'impression qu'il y avait des dissensions entre les Européens, qu'il y avait un camp très ferme qui s'exprimait clairement, je pense à la position française, et puis il y avait des pays qui étaient plus compréhensifs. Est-ce que vous avez dû accorder vos violons alors que jusqu'à maintenant, l'Europe a eu plutôt un front uni face au Royaume-Uni ?
Et on reste unis.
Et vous restez unis.
Et on reste unis.
Mais au prix de discussions.
Ce que c'est le plus intéressant, c'est de voir, surtout pour les critiques de l'Union européenne, qui a été plus facile pendant ces deux années aux 27 États membres qui avaient des visions naturellement différentes, des avis différents sur les relations avec les Royaumes-Unis, des intérêts spécifiques différenciés, a été plus facile aux 27 de trouver une position commune, négociale commune, qu'au sein du Royaume-Uni de trouver une position majoritaire pour prendre une décision d'une telle dimension, d'une telle responsabilité. Et donc, c'est naturel, quand on a des questions difficiles, quand on a de 27, il faut prendre du temps pour avoir un bon accord. Et ce qu'on a fait, et on a réussi à trouver une bonne décision qui est claire, positive, qui donne au Royaume-Uni la liberté de choisir son chemin, mais aussi qui nous protège des problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre trop de temps dans cette indéfinition, c'est qu'on sait que cette indéfinition provoque de l'angoisse, des doutes
dans la vie des gens. En cas de sortie avec accord, parce que sinon on ne sait pas ce qui se passe, hein, quand même, soyons honnêtes. Hein, quand s'il y a un no deal, on est bien embêté sur les citoyens.
Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai bien, il faut comprendre que malgré tout, le Royaume-Uni, c'est un pays européen et qui va rester un pays européen. Un voisin, un allié, un partenaire économique. Donc, il faut toujours négocier cette sortie en sachant toujours que le plus important, c'est qu'il va à venir.
Alors, l'autre grand sujet du Conseil européen, c'est évidemment les relations avec la Chine. Et le président français a aussi beaucoup insisté sur le fait que, à la faveur de la crise économique en Grèce, mais aussi dans votre pays, certains bijoux de famille, finalement investissements stratégiques, avaient peut-être été accordés un peu trop rapidement et sans véritablement concertation européenne aux Chinois. Est-ce que c'est votre sentiment, monsieur le Premier ministre ?
Bien, il faut tout d'abord savoir que 90% de l'investissement européen, chinois en Europe se concentre dans les quatre plus fortes économies européennes. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Dans ces quatre pays, on a 80% de l'investissement chinois.
Surtout au Royaume-Uni.
Surtout au Royaume-Uni. C'est la moitié, presque, de l'investissement chinois. Il existe des investissements importants au Portugal, mais c'est une goutte dans l'océan de l'investissement chinois dans l'Europe. Ce qu'on peut vous dire, et je vous dis avec les aides, tous ces processus de privatisation ont été dans le gouvernement, au temps du gouvernement qui m'a précédé, que les investisseurs chinois respectent parfaitement les lois portugaises, une attitude très correcte, et qu'on a pour le moment aucune chose à les rapprocher de la façon dont les utilisent. Mais ce sont deux entreprises qui sont, le capital est ouvert et à la bourse. Une de ces entreprises maintenant découvre une offre d'acquisition, une offre publique d'acquisition.
Voilà, c'est la compagnie d'électricité, c'est l'EDF portugais.
Distribution, oui. Et donc, ce sont des compagnies qui sont dans les marchés et que son action se règle par les règles de marché. Donc, s'il y a une compagnie française, allemande, n'importe quel pays qui veut acheter du capital, bon, il a les règles pour le faire et peuvent le faire.
Est-ce que votre pays, votre gouvernement a signé le protocole des routes de la soie avec la Chine ?
Bien, on n'a pas signé le protocole de la route pour la route de la soie, One Belt, One Road. On a signé un accord où le port de Sines, c'est le plus important port de la façade atlantique du Portugal et un des plus importants de l'Europe, parce que c'est un grand port de eau profonde qui ont de la capacité de recevoir des grands bateaux post-Panamax et qui a une position stratégique parce que c'est dans le carrefour de toutes les routes importantes, les routes de l'Atlantique, les routes du canal de Panama, la route du Cap, la route de la Méditerranée, et qui a une grande capacité de manœuvre parce que, comme vous savez, les ports au nord de l'Europe sont
Envers
embouteillage dans les ports du nord de l'Europe. Donc, c'est un port avec une offre importante. Et ce qui a été financé par des capitaux portugais, une partie à une concession dans une entreprise de Singapour, et qui est une pièce de la route. Mais ce n'est pas financé pour l'État chinois, il n'a pas pour le moment aucun investissement de l'État chinois, mais c'est une pièce importante dans cette route commerciale globale.
La route de la soie, ça, c'est un mot très romantique pour dire en fait des investissements massifs dans les infrastructures des Chinois qui inquiètent un peu les Européens qui sont inquiétés sur l'aspect aussi stratégique parce qu'ils étaient en train de réfléchir à s'équiper par exemple en 5G auprès de Huawei dont les Américains nous disent maintenant que c'est un espionnage organisé autour de cette entreprise. Alors, qu'est-ce que vous croyez de cela ? Est-ce que les Européens doivent davantage se méfier ? L'ère du soupçon est ouverte.
Bien. Tout d'abord, les Européens doivent se rassurer et sécuriser ces réseaux. Ça, c'est clair. vis-à-vis la Chine, vis-à-vis tout le monde. Comme vous le savez, dans l'affaire Echelon, on a découvert qu'un de nos plus forts alliés avait des actions d'espionnage de l'ancien bâtiment du Conseil. Donc, il faut nous rassurer, sécuriser tous les réseaux. Et on se renseigne, naturellement, on écoute les informations qui sont données pour les alliés, on fait notre screening, l'Allemagne vient de le faire, et de prendre la conclusion qu'il n'y a pas de risque différencié pour la technologie de Huawei, c'est la même conclusion que nos services de cybersécurité nous donnent, mais évidemment, il faut toujours prendre attention à la sécurité.
Donc, d'accord pour travailler...
Mais jamais confondre la prévention de la sécurité avec les combats à la pratique déloyale du point de vue commercial, ni masquer sur cette question de la sécurité des pratiques protectionnistes.
Donc le Portugal veut à la fois trouver dans la Chine un partenaire sympathique, mais aussi rester vigilant dans le cadre de cet accord européen qui a été annoncé.
On doit être toujours vigilant,
oui.
Mais on doit toujours avoir une relation positive.
D'accord.
Regarde, le Portugal a une relation séculaire avec la Chine. On a été les premiers occidentaux qui ont arrivé en Chine, et on a resté en Chine, à Macao, en administrant Macao jusqu'en l'année 2000. On se connaît très bien. On a toujours une relation de respect mutuel et considération qui a dépassé plusieurs régimes, soit au Portugal, soit en Chine. Et donc, on a une relation très amicale avec la Chine. Et ce qu'on croit, c'est que l'Europe doit prendre attention au retard qu'elle a accumulé dans l'innovation, dans sa capacité d'être compétitif dans le nouveau monde global. Mais l'Europe ne va pas devenir plus compétitive en se refermant sur soi-même, mais doit utiliser son poids, sa politique commerciale, pas pour se renfermer, mais pour ouvrir les marchés, notamment de Chine, dans une position d'égalité, parce que ce qu'il nous faut, c'est pas être moins exigeant du point de vue de notre standard social, de notre standard ambiental, environnemental, de notre standard de sécurité alimentaire. Ce qu'il faut rassurer, c'est que nos partenaires commerciaux respectent ces standards, soit dans le marché européen, soit dans le marché où on veut être aussi compétitif.
Parlons de votre pays, le Portugal, Monsieur le Premier ministre. On parle d'un miracle portugais. C'est quand même un pays qui a la particularité d'être gouverné à gauche, avec une coalition de gauche, alors qu'on dit que la social-démocratie se porte très mal, notamment en amont des élections européennes dont on sent que les socialistes vont perdre des voix. Alors, quel est le secret, d'une part, et puis comment vous diagnostiquez ce malaise de la social-démocratie ?
Bien, je crois que cette nouvelle de la malaise de la social-démocratie, c'est un peu comme ce que disait Mark Twain, que la notice de sa mort, ça a été un peu précipité. Je crois qu'avec la social-démocratie, c'est la même chose. Il a des cycles politiques. Ce que je veux pas dire sur le Portugal est qu'on a démontré, il avait des doutes. Il y a 3 ans, quand on a commencé avec mon gouvernement, qu'il était possible de tourner la page de l'austérité, de renforcer les revenus des familles, de créer des conditions pour l'investissement, pour la réduction du chômage, en respectant les règles d'une bonne santé budgétaire. Et effectivement, on a réduit d'une façon très significative notre déficit. On va fermer l'année 2018 entre 0,5 et 0,6. On a commencé à réduire notre dette publique qui était très élevée et qu'on a commencé à 130% du produit. On est déjà à 121 et on va réduire cette année jusqu'à 117 et que donc c'est possible de ménager notre politique budgétaire pour la stabiliser et en même temps donner des conditions pour la croissance et la forte création de l'emploi.
Une toute dernière question, si vous voulez bien. Dans le cadre de ces élections parlementaires, le président français vit un peu cette campagne comme un futur combat entre les progressistes d'un côté, qu'il veut incarner, dont il rêve d'être le chef de file, et les populistes, qui font de plus en plus peur. Est-ce que vous souscrivez à cette vision de la campagne ?
Bien, en France, où il y a franchement, où il y a une extrême droite très fort, et il y a clairement deux pôles, cette vision, c'est plutôt française qu'européenne. La vision européenne, c'est un petit peu différenciée. Il y a d'autres axes de différenciation politique et des combats politiques. Mais c'est vrai que sur cette question fondamentale, de la défense de l'Union européenne, du projet européen, des valeurs fondateurs de l'Union européenne, il existe aujourd'hui un grand bloc en Europe, que je peux dire d'une façon aussi schématique, qui va du Premier ministre Tsipras à la chancelière Merkel, et où le président Macron a un rôle très important avec sa jeunesse, avec son énergie, avec... C'est la force politique d'un mandat d'élection directe par le peuple. Donc, c'est un bloc très important pour soutenir le fondamental de l'Union européenne.
Et de l'autre côté,
si
vous mettez
qui ? Si dans ces blocs, tout le monde est d'accord sur tous les sujets, malheureusement non. Il y a d'autres questions sur la politique concurrence, l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, l'avenir des fonds européens. Donc, sur ces sujets, sur les pilars sociaux de l'Union européenne, sur ces sujets, on n'est pas...
Le SMIC européen, vous y êtes favorable ?
D'accord, sur tous les sujets. Donc, il faut faire les débats et trouver des solutions. Et le SMIC, c'est évidemment un grand défi. Je crois que pour le moment, c'est un objectif, mais la convergence qui doit être le grand moteur pour renforcer l'unité dans l'Europe doit être une convergence réelle. Ça veut dire pas seulement de taux de croissance, pas seulement du PIB, mais aussi des revenus des familles.
Et donc, les élections, vous nous dites clairement, les élections européennes du 26 mai ne vont pas se traduire par une grande victoire de l'autre camp, parce qu'on a parlé des progressistes, mais des populistes, c'est-à-dire de l'extrême droite. Vous ne pensez pas qu'ils risquent de bloquer les institutions, le Parlement, peut-être même la Commission, etc., par une entrée en force ? On pense évidemment à Viktor Orban, on pense à la Ligue de Salvini, on pense à cette montée en puissance en Europe de ces mouvements.
Non, je crois, je suis sûr que les forces démocratiques seront majoritaires et capables de trouver des solutions de gouvernement de l'Europe qui peuvent redonner la confiance en Europe aux citoyens. Parce que ça, c'est la question clé. Parce que la question, c'est pas de faire des discours contre l'extrême droite. C'est de résoudre les problèmes, que les citoyens soient attirés pour les discours simplistes, populistes, de l'extrême droite, du nationalisme, de la xénophobie. Et pour ça, il faut sécuriser les citoyens vis-à-vis les risques du terrorisme, les risques du conflit militaire dans les frontières extérieures de l'Union européenne, sur l'avenir de notre modèle social devant les défis de la globalisation. Mondialisation, c'est comme on dit en français, c'est mondialisation. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de rassurer les citoyens. Parce que, vraiment, ce qu'il faut pour combattre l'extrême droite et le populisme, c'est la sécurité pour les citoyens. Renforcer la confiance dans les institutions et dans l'Union européenne.
Merci d'avoir été notre invité, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et RFI.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes France 24 et Radio France Internationale.